Ça va être vraiment en fait une grande rencontre avec deux intervenants qui sont venus spécialement sur l'île pour vous rencontrer, mais aussi pour participer à la biennale demain, dont François Morel est l'invité d'honneur. Alors, François Morel, est-il besoin de le présenter? On n'entend pas? Bon, alors on parle beaucoup plus fort, donc il est très près du micro. On peut dire de lui que sa page Wikipédia est plus longue que celle d'un ministre de la 4e République. Acteur au cinéma, à la télévision, au théâtre, chanteur, ce qui est moins connu, mais je pense que beaucoup d'entre vous donc pourront l'écouter cet après-midi, en fait, ou ce soir, et il est déjà venu au casino il y a 2 ans. Essayiste, metteur en scène, humoriste, billettiste de radio, chroniqueur sur France Inter tous les vendredis matins depuis 2009. Il prête aussi sa voix donc pour des documentaires sur la nature ou pour des films d'animation. Cet homme est boulimique et on se dit qu'il se plaît à toujours rajouter de nouvelles cordes à son arc. Valentin, son fils, n'est pas encore aussi connu. Mais Valentin, en fait, travaille aussi dans les métiers du spectacle. En fait, il est assistant réalisateur et il a notamment beaucoup accompagné Jean-Pierre Bacri sur ses derniers films. Découvert par... Je reviens à François, vous voyez, c'est un peu l'émotion, là, je reviens. Donc, juste en fait, un petit mot pour vous rappeler donc, la notoriété, effectivement, donc, de François Morel. Est venu donc au moment donc où il a rejoint la troupe des Déchiens en 1989 après avoir joué effectivement dans la série Palace de Jean-Michel Ribes. Et juste donc pour citer effectivement donc deux très grands succès récents, donc à la fois le rôle, on peut pas dire le rôle de Jean-Luc Mélenchon, mais d'un personnage qui lui ressemble, qui joue dans la fabuleuse série politique Baron Noir, et aussi ce spectacle donc qu'il a créé au Théâtre du Rond-Point et qui a tourné dans toute la France, qui s'appelle J'ai des doutes, donc certains d'entre vous ont sans doute vu et qui est un hommage à Raymond Devos. Voilà, Morel et fils, père François Valentin, donc ont travaillé sur le dictionnaire amoureux. Vous voyez même effectivement donc. La police nous surveille, en fait, et la télé est en train de filmer. Dictionnaire amoureux de l'inutile. Ce dictionnaire amoureux est le 110e dans la collection qui a été créée chez Plon par Jean-Claude Simoen en l'an 2000. Et avis aux nombreux psychanalystes qui sont certainement dans l'assistance, je les laisse réfléchir sur le fait que cette collection aime bien les histoires de famille raconté par des pères et fils, puisque c'est le troisième exemplaire du genre, après le dictionnaire amoureux de Marcel Proust, rédigé donc par Jean-Paul et Raphaël Entoven, et après le dictionnaire amoureux du patrimoine, rédigé par Pierre et Olivier Delagarde. Vous allez donc maintenant découvrir ce dictionnaire amoureux qui est à la fois futile et essentiel, nostalgique et facétieux, mais aussi très documenté comme le sont les dictionnaires. Certains ont dit qu'il était sans queue ni tête, c'est tout à fait faux, car il démarre à la lettre A par effectivement l'entrée Académie française et se termine à la lettre Z en queue de poisson par un zou qui était l'interjection familiale de la mère de l'un et de la grand-mère de l'autre pour dire on passe à autre chose. Un dictionnaire inutile présenté sur une île, cela aurait pu inspirer la famille Morel, qui a des attaches sur une très jolie petite île dans le golfe du Morbihan, sur l'île d'Arles. Mais pas de chance, le dictionnaire amoureux des îles vient d'être publié juste après le dictionnaire amoureux de l'inutile. Voilà, nous pouvons rentrer maintenant dans le vif du sujet et je vais passer la parole à mon compère Philippe Dupuis. Philippe Dupuis, beaucoup d'entre vous le connaissent. Il est intervenu déjà il y a 2 ou 3 ans dans une des rencontres. Philippe est le verbicruciste et non pas le cruciverbiste. Verbicruciste, c'est celui qui fait les mots croisés. Il les fait dans le monde depuis plus de 20 ans et il a l'insigne honneur, comme de grands personnages comme Gargantua, Giscard, Victor Hugo ou la Tour Eiffel, d'avoir son entrée mots croisés qui lui est dédiée dans le dictionnaire par nos auteurs. Donc Philippe, ça c'est la gloire.
Les dictionnaires amoureux, pour ceux qui les connaissent, il y a aussi bien Bernard Pivot qui a fait le vin, qui a fait les mots, qui a fait, etc. Bon. Donc les dictionnaires amoureux, c'est simple. On peut tout dire et n'importe quoi. C'est l'idéal. Jean-Claude Simoen, qui était un jeune et talentueux éditeur, c'est un vieux monsieur maintenant, quand il a commencé, allait chercher des gens connus et leur demander de faire sur ce qu'ils aimaient. Ça permettait à Bernard Pivot de placer le Beaujolais au-dessus du Bordeaux, puisqu'il était amoureux du Beaujolais. Ça permettait, donc ça permet au Morel d'écrire, mais vraiment n'importe quoi d'inutile. Alors, moi qui travaille un peu sur les mots, j'ai commencé par regarder un peu un dictionnaire. Inutile dans un dictionnaire classique, ça veut dire qui ne sert pas. Donc c'est déjà pas terrible. Ça veut dire superflu, c'est pas non plus bien méchant. Mais ça veut dire aussi oiseux et stérile. Alors là, bravo les mecs, vous mettez à deux pour arriver là-dessus, etc. Il faut une préface, ils expliquent dans la préface que le Larousse a 30 000 entrées. Alors, il annonce 25 000 à 130 000. Enfin, il pourrait y avoir beaucoup plus d'entrées d'un dictionnaire. Le Robert en a un peu plus. On signale aussi qu'avec 500 mots, on peut se comprendre. Eux, ils ont retenu 270 mots ou expressions sur lesquels ils brodent, ils travaillent, ils réfléchissent et tout. Comme ils sont quand même aussi un petit peu paresseux, de temps en temps, ils interviewent des gens, donc ils n'écrivent rien. De temps en temps, ils font des citations. Une des plus brèves, Antoine Salaire, qui est peut-être dans la salle et qui est le musicien.
C'est pas une salle, hein, on est en plein air. Hein, ce n'est pas une salle, on est en plein air, là, je te rappelle.
Ah, c'est pas une salle. Bon, alors, on va l'appeler Antoine Plein Air, qui est un musicien, ce qui plein air est pas mal, merci. Un jour, téléphone, il lui dit, est-ce que tu sais que le général de Gaulle aimait les petits pois en boîte ? Aussitôt, on retrouve les petits pois en boîte dans le dictionnaire de l'inutile. C'est vrai que c'est vachement utile de savoir que le général de Gaulle aimait les petits pois.
En boîte.
Avant eux deux, il y a Flaubert. Quand même pas non plus. Hein. Bon. Flaubert, il a fait un dictionnaire, lui, de... Il a fait un dictionnaire qu'il n'a pas publié de son temps, mais qui est resté. Et puis, inutile, il n'a pas rentré.
Des idées reçues.
Oui, des idées reçues, pardon, il faut aller jusqu'au bout. Et les idées reçues, c'est plein de platitudes, aussi, autant que votre dictionnaire, hein, je ne voudrais pas dire. Et inutile, il ne l'a pas rentré. En revanche, il a rentré idéal, et pour idéal, il a mis tout à fait inutile. Il aurait pu rentrer inutile, tout à fait idéal. Et comme il était encore plus paresseux que vous, pour poésie, il a écrit aussi tout à fait inutile. Donc votre dictionnaire, il est entre l'idéal et la poésie. C'est pas mal. Ouais, ouais. Merci. Alors, à partir de là, ils ont cherché, eux, tous les deux, un peu ce qui était inutile, les gens qui avaient repris inutile. François parlera, à un moment donné, je pense, de Brassens et de l'inutilité du piano de Brassens. C'est assez marrant, puisque Brassens ne jouait pas du piano. Enfin, si, il en jouait chez lui, mais il n'en jouait pas en scène, en fait.
Il trouvait même ses airs au piano.
Ah, mais tu nous raconteras. Et à un moment donné, dans les citations, il y a Plonk et Replonk qui sont des Suisses insupportables et qui, eux, disent l'inutile est proche de l'indispensable. Et c'est pas mal, ça aussi. Bon. Alors, début des choses. Pourquoi dictionnaire de l'inutile ? Pourquoi vous a pas demandé le dictionnaire de la bêtise ? Pourquoi vous a pas demandé à tous les deux, là ?
Sans doute parce qu'on était spécialiste en rien. Donc ça nous arrangeait bien de parler de l'inutile parce que c'était le sujet le plus ouvert possible. C'était aussi amusant de faire un livre à deux avec mon fils parce que dès que j'ai eu la proposition de faire un dictionnaire et je me suis dit mais je suis bien incapable d'écrire un dictionnaire tout seul.
D'accord.
Donc j'ai proposé tout de suite à Valentin d'écrire parce que ça permettait de faire un ping-pong. Et la première idée que j'ai eue sur l'inutile, c'était les ricochets. Je me suis dit un papa qui est avec son petit garçon à côté d'une rivière et qui s'amuse à faire des ricochets comme ça. Ça ne sert absolument à rien. Et en même temps, ce sont des moments vécus indispensables et dont on peut avoir la nostalgie quelques années plus tard. Et je me suis dit, c'est une façon aussi de lancer des ricochets comme ça avec son fils quelques années plus tard, c'est-à-dire essayer d'écrire un dictionnaire sur l'inutile, c'est-à-dire les choses qui sont indispensables et dont on ne parle pas forcément dans les livres et qui ne font pas l'objet de spécialisation. Et donc c'était comme ça un jeu, quoi. C'est un jeu sur la fantaisie, les choses. C'est aussi comme un journal, parce que finalement, un écrit, c'est toujours un peu traversé par ce qu'on est en train de vivre au moment. Et je ne sais pas, par exemple, tu as parlé de mon imposture, et ça, je reconnais d'être un imposteur absolu. Par exemple, au moment où je lisais La Serpe de Philippe Jeannadin ou la Petite Femelle, j'ai eu une passion pour tous les bouquins de Philippe Jeannadin que j'ai lus à l'époque. Et donc, c'est au moment où on écrivait le livre que j'ai lu Philippe Jeannadin. J'ai trouvé son mail et j'ai fait une interview comme ça de Philippe Jeannadin sur la parenthèse, parce que c'est absolument indispensable à ses bouquins. Alors que la qualité de ses bouquins, c'est qu'il fait des enquêtes policières et en même temps, il raconte sa vie, il raconte ses rapports avec sa femme, avec son fils, avec sa voiture qui a un petit truc qui s'allume et qui l'inquiète beaucoup. Ses rencontres avec la dame du restaurant chinois où il va manger à Angoulême, etc. Enfin, plein de choses comme ça qui m'ont plu, qui m'ont fait rire et qui font que le style de Philippe Jeannadin est absolument lié à ses parenthèses. Donc, ça parlait de tout et de rien et de ce qu'on aime. Moi, j'ai une passion pour Brassens, donc parler du piano, par exemple, de Bobino, qui ne servait à rien sauf à poser le verre d'eau de Brassens. Et après, j'ai vu Maxime Le Forestier qui m'avait dit que des fois, c'était utile pour Pierre Nicolas parce qu'il avait tendance à boire un peu et ça permettait de le caler un peu. voilà, donc voilà, c'était un moment de... Enfin, voilà, parler de dans le fond, ça parle quoi du bonheur de vivre et du bonheur de l'échange et de ces moments où on n'a pas besoin d'être utile, rentable. Et...
On peut avoir le point de vue de...
Oui, je voulais trouver une phrase de conclusion, mais en même temps, une phrase de conclusion est inutile.
Qu'est-ce que je peux rajouter à ça? C'était très bien.
Qu'est-ce qui fait quand ton père est venu...
Valentin. Quand papa est venu dire « on va travailler ensemble », qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez dit? N'oublions pas non plus qu'il y a un troisième Morel dans le bouquin. À toi de la présenter.
C'est Christine qui est la femme de François et ma mère, qui a fait les illustrations aussi. Voilà. Non, qu'elle était. Je crois que je me suis un peu enfermé tout seul. Je me suis dit « qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il va falloir essayer d'écrire avec François ». Et en fait, je crois que j'ai essayé de me poser aucune question et d'essayer d'avancer. Pardon, plus fort ? Le micro sur la bouche, pardon. Non, j'ai essayé de me poser aucune question et d'essayer d'avancer, parce que si je me pose trop de questions par rapport à François, je n'avancerai pas. Je crois que je n'aurais rien fait si j'avais regardé la collection, tous les auteurs et tout ça. Donc non, c'était plutôt un travail qui s'est fait sur 3 ans, donc c'était dans un rythme assez calme, assez tranquille, donc ce qui nous a permis de réfléchir, de trouver plein d'idées, de... Bon, voilà.
Bon, comment vous avez démarré tous les deux? Vous avez fait une liste, l'un a envoyé à l'autre ses idées. Est-ce que c'est facile de dire, on s'envoie tous les mois trois noms, trois listes, trois machins? Bon, moi, je ne vous crois pas. Il y a toujours un éditeur qui doit essayer de prendre les choses en main ou de corriger ou de dire vous n'êtes pas dans le bouquin, vous êtes à côté, enfin, de toute façon vous êtes toujours à côté. Est-ce que vous avez éliminé des choses à la fin?
Très peu, de toute façon on était à côté, mais vu le sujet, l'éditeur n'avait pas grand chose à dire à chaque fois, parce qu'il arrivait souvent qu'on soit à côté, mais on arrivait à justifier tant qu'il y avait toujours un petit point de vue par rapport à l'inutile. Donc non, mais tu ne nous crois pas, mais on a fait 5 entrées par mois. Donc en général, François, on se disait on envoie 5 entrées. François, il écrivait du 1 au 3, il avait réussi à faire ses 5 entrées. Et moi, il me passait le reste du mois à me dire alors, où est-ce que t'en es, où est-ce que t'en es. Et moi, j'arrivais à écrire en général du 29 au 31 en dormant 3 heures par nuit. Et à la fin, j'arrivais à rendre. Alors j'avais 4 jours de bonheur intense, ça y est, j'ai fait mon travail. Mais non, ça s'est fait comme ça, tous les mois, 5 articles chacun, donc 10 articles, 10 entrées, on envoyait aux éditeurs qui disaient toujours « Ah bah c'est super, continuez ».
Mais attends, est-ce que vous vous corrigiez l'un l'autre? Est-ce que vous corrigiez ou pas du tout? Ou vraiment, on est brut de fonderie dans votre bouquin?
Je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu un peu des corrections, mais c'est surtout à la fin qu'on a corrigé en disant « t'es sûr que tu as envie de mettre ça ?» Enfin, je ne sais pas, oui, on s'est corrigé un peu l'un l'autre, mais pas plus que ça. Enfin, moi, j'étais en général, je me suis rendu compte que Valentin était encore plus champion du monde de nostalgie que moi. Parce qu'il y avait beaucoup de nostalgie dans ce qu'il racontait. Et souvent, j'étais assez touché par ce qu'il racontait lui-même, donc je n'avais pas tellement envie de corriger. Ça me permettait de connaître mon fils.
Pour moi, c'était compliqué de dire à François « change cette phrase, fais autrement ». Oui, bah oui. Je suis très impressionné.
Dis Arnaud, on démarre, parce qu'on a relevé avec Arnaud un certain nombre de petites choses. Ça part du bigorneau en passant par le furet. Les deux ont un intérêt sur des concours, donc...
Voilà. Ben, moi, j'ai choisi des entrées qui ont plutôt rapport avec notre milieu naturel, ce milieu insulaire, en fait, et la mer. Et alors, on ne sait pas, ni Philippe ni moi, qui a écrit quoi. Donc, à chaque fois, on verra qui répond des deux. Donc, mais moi, j'ai été très intéressé par l'histoire du lancer de Bigorneau, qui semble être un concours donc, très prospère en Bretagne, pas encore inscrit aux Jeux Olympiques, mais qui sait. Et donc, qui est-ce qui veut nous parler du lancer de Bigorneau?
Bigorneau. Sur France Inter, un humoriste d'État a cru bon en se... Parce qu'en plus, non seulement je suis un imposteur, mais j'ai repris une chronique de France Inter que j'avais écrite pour donc un vendredi matin. Sur France Inter, un humoriste d'État a cru bon en ce 1er novembre 2019 d'ironiser sur le lancer de Bigorneau qui a lieu chaque année en Bretagne à Sibiril. Je ne sais pas si vous connaissez ce... Vous connaissez Sibiril?
Et le lancer.
Vous-même, vous êtes une lanceuse de Bigorneau? Oh, très bien, je suis impressionné. Je vais vous interviewer pour le tome 2. Mettre la langue dans le trou et puis quand on crache, céder du poids de son corps. Le sport, j'en conviens, n'est pas ma spécialité. Ma chronique de la semaine n'en sera pas moins sportive. Mettre la langue dans le trou et puis... quand on crache, céder du poids de son corps. Je ne me lasserai jamais de dire cette phrase découverte dans Ouest France, dont la lecture parfois est plus suggestive que celle de Penthouse, plus ensorcelante que celle de Voluptuous, auquel Philippe Dupuis est abonné depuis des années. Mettre la langue dans le trou et puis quand on crache, céder du poids de son corps. Dans l'édition Bretagne du plus grand quotidien régional du 5 août 2019, on découvre les conseils sportifs de Stéphane Salomon qui pour la première fois participe au championnat du monde de cracher de bigorneau. Il faut choisir un bigorneau, ni trop gros ni trop petit. Le trop gros bigorneau présente une lourdeur dans l'atmosphère qui ralentit sa propulsion. Le trop petit bigorneau n'a pas une capacité suffisante pour fendre l'air. En 2019, à Sibiril, commune du Finistère située non loin de Roscoff, force est de constater que la gloire du plus grand cracheur de bigorneau du monde, Alain Jourdan, n'a pas été entachée. Son record du monde, 11 m 04, nous ne l'apprendrons à personne, reste indépassé. Le meilleur cracheur 2019 n'atteignit que les 9 m 90, la meilleure cracheuse que les 7 m 90. Qui est présente ici cet après-midi, ce matin. Alain Jourdan, aujourd'hui, n'est plus. Souvenons-nous de lui, c'était le plus grand. Chaque année, depuis 2001, c'était lui le vainqueur, l'éternel victorieux, le sempiternel triomphateur. Nous ne résistons pas à nous souvenir, non sans émotion, de ses exploits passés. 9,70 m en 2002, 10,40 m en 2003, 10,11 m en 2005, 10,41 m en 2006, jusqu'à ce jour fameux, de l'été 2011 où il fit exploser son record que nous rappelons avec admiration, 11 m 04. Les vrais amateurs du cracher de Bigorneau mesurent aussi la prouesse qui fut la sienne quand, en 2015, Alain Jourdan réussit un lancer certes de 8,90 m, mais par vent contraire. Le cracher de bigorneau peut sembler être une activité inutile, mais pas plus que le lancer du poids, du disque, du javelot, du saut à la perche, du triple saut ou n'importe quelle autre activité sportive. Cet article qui s'intitule « Bigorneau » aurait pu aussi bien s'appeler « Sport, athlétisme, championnat du monde ».
Alors, dans les exemples, dans les entrées, puisqu'on a rentré Bigorneau, il y a un sport aussi étonnant, ou plus étonnant, parce qu'il n'est pas français celui-là, il est anglais, je crois, c'est le furet. Alors là, c'est Valentin qui a écrit le furet. Mais c'est pas très long, je crois, donc tu peux le lire, ou tu racontes comme tu veux.
Je vais expliquer ce que c'est que... Donc, c'est pas le furet, en anglais, c'est le ferret legging, donc furet pantalon. Donc c'est une pratique consistant à s'introduire pour le sport, un furet dans le pantalon et à résister le plus longtemps possible aux assauts du rongeur sur notre anatomie. Si les règles sont simples, il faut cependant respecter trois interdits. Le compétiteur ne doit porter aucun sous-vêtement. Le compétiteur ne doit en aucun cas être sous l'emprise de l'alcool ou autre substance, le furet non plus. L'animal doit posséder sa dentition complète. La réciproque ne semble pas impérative pour le compétiteur. Et en fait, c'était une découverte évidemment formidable de découvrir ce sport inconnu jusque-là. Et on parle du grand champion, là aussi, du ferret legging, qui s'appelait Reg Mellor, et qui a tenté de battre son propre record. Je crois qu'il l'avait... Alors voilà, c'était pendant 5h23, c'était le record. Il a essayé de battre son record. Il comptait dépasser la barre des 6 heures, donc il y a eu toute une organisation, plein d'invités, de spectateurs qui sont venus, l'arène je ne sais pas. Mais finalement, en fait, au bout de 5 heures, les gens ont commencé à vraiment s'emmerder, tout le monde est parti, il est resté tout seul avec son furet pour essayer de battre son record. Jusqu'au bout, les gens ont commencé à enlever les barrières et tout ça, et donc finalement il a dû mettre fin, et donc on n'a pas réussi à battre ce record de 6 heures. Voilà, voilà, c'est de ça qu'on parle.
Oui, j'espère que ce n'est pas ce qui va nous arriver et qu'on ne restera pas là dans 4 heures. Il n'y aura plus personne à continuer à parler. Il n'y a pas beaucoup de chance. Alors, dans un registre un peu différent, mais toujours dans le milieu marin, le concombre de mer. Et là, on sent que c'est un article qui vous a déchiré pour savoir est-ce que le concombre de mer est utile ou inutile. En tout cas, c'est un animal très intéressant. Et donc, qui veut en parler ?
Je crois que ce qui nous a surtout amusé et l'information qu'on avait vraiment envie de faire passer à travers cet article, je crois que c'était l'idée que le concombre de mer a développé une dentition autour de son anus déjà, et que surtout il respire par l'anus. Je crois que c'était vraiment l'information qu'on avait envie de...
Ce qui n'est pas donné à tout le monde.
Alors malgré tout, c'est quand même très savant. On a pris les petits pois. Du général de Gaulle, c'est...
Monsieur
Salaire. Il y a quelque chose aussi d'intéressant, c'est sur le parmesan. La consommation du parmesan.
C'est toi, ça, non ?
Ah bon. Alors, juste, moi, je vais garder la parole. On consommerait en France, en parmesan, le poids de la Tour Eiffel. Et ça, si ce n'est pas quelque chose d'inutile, ouais. Excusez-moi tous les deux.
Ça, je peux le dire, non ?
Ah, vas-y.
La France importe d'Italie 9800 tonnes de parmesan par an, c'est-à-dire à peu près le même poids que la Tour Eiffel, 9700 tonnes. Ça vous en bouche un coin ? Admiratif, vous vous exclamez. Vraiment, cet ouvrage nous en apprend des vertes et des pas mûres. Modeste, nous baissons les yeux.
Bon, maintenant, on va parler du soleil qui a été assez capricieux donc cet été, mais qui, j'espère, va s'installer. Et en fait, le soleil serait inutile. Selon la famille Morel.
C'est très court, là.
Le soleil est certes un astre qui a ses vertus. Par exemple, il est très joli quand il se couche, quand il se lève aussi, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. En revanche, il ne sert pas à grand-chose selon Georges Christophe Lichtenberg. Qui est plus utile, le soleil ou la lune ? La lune, bien entendu, elle brille quand il fait noir, alors que le soleil brille uniquement quand il fait clair.
C'est fantastique. Auquel des deux on doit les poissons rouges et les animaux ? Alors, ça, c'est intéressant aussi parce qu'il y a des gamins, il y a des gamines, il y a des enfants, il y a des parents. On a des poissons rouges, des chats, des chiens. Mais dans quel ordre on a tout ça ? Et surtout, c'est la conclusion qui m'intéresse, moi.
La conclusion de poissons rouges.
Alors, on se demande bien ce qui pousse chaque année les Français à faire du poisson rouge l'animal de compagnie le plus possédé. On en recense 34,2 millions dans le pays, devant les chats 12,7, les chiens 7,3, les oiseaux 5,8 et autres rongeurs 2,8. Car paradoxalement, lorsqu'un sondage leur demande de choisir parmi 20 animaux celui qu'ils préfèrent, le poisson se retrouve bon dernier avec seulement 2% des voix. Donc il se trouve que c'est l'animal qu'on aime le moins mais qu'on possède le plus. Voilà, donc on essaie après de réfléchir à tout ça, de trouver des raisons. Voilà, d'apprendre des choses.
Ouais. Tenez.
Alors moi j'ai... Ah, pardon.
Bon, y a un article, parce qu'il y a une entrée sur Don Quichotte, et Don Quichotte présenté comme héros de l'inutile. Je ne suis pas sûr qu'une partie de l'assistance serait d'accord, parce que pourfendeur de moulin à vent, en fait, donc sur l'île-dieu, c'est quand même en fait un sujet assez brûlant. Y a aussi en fait un article sur faire du vélo sans les mains. Donc heureusement que c'est interdit aux enfants ici, parce que sinon donc on va avoir une vague d'accidents et la gendarmerie va nous faire des reproches. Ce que j'aimerais moi, c'est que vous nous disiez par exemple, il y a une entrée qui est magnifique et qui est très courte en fait aussi et philosophique sur le bouquet de fleurs.
Pour le coup, c'est une vraie arnaque. On a vu une jolie, une belle citation. On l'a remis dedans in extenso.
Le premier homme de la préhistoire qui composa un bouquet de fleurs fut le premier à quitter l'état animal. Il comprit l'utilité de l'inutile. Okakura Kakuzo, le livre du thé.
Merci.
Enfin, les applaudissements vont pour Valentin. Hein. François, il a bien mieux lu. Qui a écrit sur les cerfs-volants transformés en éoliennes? Parce que alors, les éoliennes à l'île-dieu. Ah, voilà, tu entends là. Bon.
Pourquoi c'est un débat ici?
Oui, parce qu'il y a le même problème que vos éoliennes à Dieppe, le Touquet. Donc, Vincent ou Valentin?
C'est bien que tu te souviennes. Vincent, c'est un raccourci entre les
deux. Oui, on a fait un petit article sur. On est parti de quoi? De l'idée du cerf-volant, je crois, de l'idée du vent qui souffle et de. Du festival des cerfs-volants à Dieppe, et on a fait le lien évidemment avec le vent qui soufflait et dont il fallait absolument tirer un bénéfice, contrairement aux cerfs-volants. Donc voilà, c'était le lien entre ce sujet des éoliennes au Tréport, des éoliennes offshore immenses qui vont casser le paysage. Donc c'était l'occasion d'en parler. On a eu un petit débat là-dessus parce que François était plutôt pour les éoliennes sur le principe, et moi, après. Oui, vous pouvez. Et moi, après être allé à Dieppe, je me disais qu'il fallait quand même essayer de sauvegarder un beau paysage. Voilà. Mais donc, pour le coup, c'est un des articles qu'on a retravaillé un peu ensemble en essayant. Moi, j'ai essayé d'atténuer un peu une forme de colère que j'avais dans le texte. Et finalement, c'était très bien comme ça, en faisant passer l'idée, mais avec plus de douceur, peut-être.
C'était l'occasion de parler aussi d'un des plus beaux cimetières de France, qui est situé à Varengeville-sur-Mer, où est enterré Braque.
Et qui ouais. Domine la mer. Voilà. Je ne sais pas à quel moment on passe la parole. L'eau en poudre, ça c'est fabuleux comme utilité. L'eau en poudre. Hein.
C'est-à-dire que c'est pratique. Vous êtes dans le désert. Vous n'avez pas d'eau. Vous avez de l'eau en poudre. Vous rajoutez de l'eau et tout d'un coup, vous avez de l'eau.
Voilà.
C'était le titre d'un spectacle. C'est important pour moi parce que c'était le titre d'un spectacle de Roland Dubillard avec Marc Dudicourt et Jacques Seller. Et c'est l'un des premiers spectacles que j'ai vus à Paris, quand j'avais mon père était à la SNCF, donc j'avais des coupons gratuits, je pouvais aller voir des spectacles à Paris. Et j'avais vu ce spectacle-là à la Cour des Miracles qui se trouvait à côté de la gare Montparnasse. Et j'ai un souvenir ému de ce spectacle. Et depuis, Dubillard m'a toujours un peu accompagné. Donc voilà, l'occasion de parler de Roland Dubillard, poète, écrivain et dramaturge magnifique.
Peut-être une dernière entrée, parce qu'il va bientôt être l'heure de l'apéro. Qui a inventé l'apéritif? Parce qu'on s'instruit beaucoup à la lecture du dictionnaire.
Il y en a plusieurs qui revendiquent. Il y a plusieurs personnes qui... À quel moment Dans l'histoire des hommes, a-t-on commencé à entendre cette phrase promesse de cordialité légèrement enivrée, passez donc prendre l'apéritif. Bien sûr, les Assyriens, avant de passer à table, prenaient un petit vin de palme. Bien sûr, les Romains goûtaient le vin cuit. Bien sûr, les Allemands du XIIe siècle mélangeaient l'absinthe et le vin pour faire du vermouth, ancêtre du vermouth. Bien sûr, au Moyen-Âge, on buvait des boissons alcoolisées à vertu prétendument médicale, comme le clairet ou comme le vin de sauge. Bien sûr, nous disons bien sûr pour faire nos malins. En réalité, nous sommes en train de recopier la page Wikipédia consacrée à l'apéritif. Louis XIV, croisant le nôtre dans les jardins de Versailles, ne lui a jamais dit « André, quand vous aurez fini vos plantations, passez donc prendre l'apéro, j'ai un petit rivesal de derrière les fagots, vous m'en direz des nouvelles ». Jamais un mérovingien, un carolingien, un capétien, un valoisien n'a ouvert la bouteille de pastis surmontée de son fameux doseur en plastique. L'apéritif tel que nous le connaissons avec cacahuètes, pistaches, et la dernière petite rincette avant le départ est arrivée plus tard, c'est Madame Dubonnet qui en est à l'origine, oui, la femme de Joseph Dubonnet, Dubonnet. Joseph était chimiste, il inventa une boisson pour lutter contre le paludisme, une sorte de vin de quinquina au goût amer mais rehaussé par des saveurs épicées. Les légionnaires en Afrique du Nord, qui crapahutaient dans les marécages, se faisaient piquer par les moustiques et ils en avaient fait leur médicament préféré. La femme de Joseph servit cette boisson à ses amis. Ça change, convertit-il. L'origine de l'apéro est peut-être aussi italienne, c'est possible. Quand une invention est dans l'air du temps, nombreux sont ceux qui veulent la revendiquer. Toujours est-il que depuis le début du XXe siècle, dans le monde entier, on prend l'apéritif. Il s'est développé, précisé, enrichi, diversifié. Il peut être dînatoire ou sans alcool. Il peut être pris vite fait au comptoir entre collègues avant de rentrer chez soi ou s'attarder entre amis dans la douceur nocturne d'une première soirée de printemps. Madame Dubonnet serait étonnée de la réussite internationale de son initiative. Même la reine d'Angleterre, selon Stéphane Bern, n'est pas la dernière à se servir un petit cocktail à son goût, un tiers de Dubonnet, deux tiers de gin. Madame Dubonnet, peut-être, serait légèrement inquiète. « Vous bourrez pas de chips, votre Altesse, vous allez rien manger après. »
Voilà, maintenant, avant l'apéro, est venu le moment des questions. Donc, alors, pour ces questions, parlez le plus fort possible. Et de toute façon, on répétera les questions, en fait, dans le micro, parce que vous savez que toutes ces rencontres sont enregistrées, qu'elles seront rediffusées sur Radio Neptune et accessibles aussi en podcast. Donc, la qualité du son est évidemment très importante. Donc, première question.
C'est sur le lancer de Bigorneau. Je voulais savoir si le bigorneau était plein ou creux. Est-ce qu'il y avait la bête dedans ou pas ?
Moi, j'ai toujours pensé que la bête était dedans. Mais alors, je vais faire des recherches. Parce que vous me posez une question que je ne me suis jamais posée moi-même. Madame peut peut-être nous en parler ? Ah, ce sont des bigorneaux qui auraient été déjà mangés. C'est moins drôle, alors.
Attends, le bigorneau, il y a un opercule dessus. Donc...
Oui.
Le bigorneau vivant, il est fermé, donc il n'y a pas de trou. Donc si on parle de bigorneau avec un trou, il est effectivement été consommé.
Superbe.
Le dictionnaire de l'utile.
Bon, autre question. Donc la question d'un spectateur admiratif, quel a été l'apport des chiens pour François Morel ?
Je pense que ça a été essentiel. C'est-à-dire que je crois que je me suis fait confiance. Et aussi, il y avait une grande confiance dans le rapport avec le spectateur et l'intelligence du spectateur. C'est-à-dire que quand on improvisait ensemble devant trois personnes, cette complicité, on pouvait l'avoir devant 1000 personnes avec qui on était en connexion le soir. Donc, c'est un grand respect, dans le regard du spectateur et comment aussi comment le spectateur est pas seulement quelqu'un qui vient regarder, mais que c'est un partenaire avec qui on joue. C'est une phrase de Michel Bouquet que j'aime bien citer et qui me fait penser à ça. Il disait toujours à ses élèves du conservatoire, n'oubliez pas que le public ne vient pas vous voir jouer, il vient pour jouer avec vous. Et c'est une chose que je me dis toujours. Et ça, c'est une notion qui était très importante dans les spectacles des champs et des chiens. Oui. Donc oui, c'est essentiel parce que j'y suis resté 10 ans et j'ai appris d'une certaine manière mon métier à ce moment-là. Avant, j'avais fait des choses, mais plus... J'avais joué, par exemple, dans les Dégourdis de la 11e, un vaudeville militaire de Moisy-Éon et d'Aveillan. Et c'était peut-être moins ma culture, même si ça m'avait permis quand même de jouer à l'époque à côté de Robert Hirsch et de Darry Cole, mais qui étaient deux personnalités tellement différentes que ça avait tendance un peu à s'annuler.
Oui, alors tout d'abord, merci beaucoup pour cette causerie qui est bien agréable. En fait, c'est deux questions que j'ai à vous poser qui sont liées. Qu'est-ce qui, pour vous, décroche la palme de l'inutilité? Et est-ce que décrocher une palme, pour vous, c'est utile?
Tu veux répondre, toi?
Moi, je dirais l'objet le plus inutile sur lequel on est écrit, je dirais que c'est l'épée d'académicien. De nos cacochimes académiciens, qui, ça m'étonnerait qu'ils se battent à l'épée.
Il y a une boîte inutile, quand on appuie dessus, ça permet de l'ouvrir et de la refermer aussitôt. Mais ça...
Sur la boîte, ça l'ouvre, pardon. C'est un mécanisme qui fait que tu appuies sur la boîte, ça l'ouvre, et il y a un petit crochet qui vient immédiatement, mécaniquement, refermer la boîte. Voilà, c'est une boîte inutile.
On aurait dû la porter, ouais. On en a eu.
À la maison.
À rien.
À rien.
Dans le fil comme ça, puisque dans l'inutile, voilà, un livre inutile, il y en a quand même pas mal, donc celui-là est un peu plus inutile que les autres. Est-ce qu'il y a une suite? Puisque ça marche du tonnerre de Dieu. Donc l'éditeur, il doit déjà dire, est-ce qu'on pourrait faire l'inutile 2, l'inutile 3, l'inutile 4? Ou est-ce que vous avez, vous deux, puisque c'était une première, des projets ensemble?
Peut-être, c'est-à-dire, pas l'inutile 2, parce que bon, on va passer à autre chose, mais peut-être un dictionnaire amoureux de l'amitié. Et ça, c'est une idée que nous a soufflé François Rollin, parce qu'il aimait bien le rapprochement de amoureux et amitié. Et peut-être qu'on va s'y coller, parce qu'il y a plein d'histoires formidables autour de l'amitié. Et voilà, donc peut-être qu'on va gamberger là-dessus à partir de septembre.
Le peut-être, ça veut dire oui. Vous voyez, maintenant.
Autre question.
Dans le micro.
Ah oui, dans le micro, pardon.
Attends, il faudrait peut-être se lever.
L'utilité des palmes.
Je crois qu'on y a répondu, en fait, par exemple, dans l'article sur les bigorneaux. Je crois que c'était la conclusion.
Un tout petit mot. Moi, je me méfie de deux parce qu'ils démarrent avec Académie, Académie française. Ça reste un rêve. Bon, voilà. Ensuite, ils passent par Giscard d'Estaing, passé à l'Académie. Ils passent par l'épée. Hein, ouais. Et finissez par Zizi, taille des Zizi, qui renvoie à l'ouverture des académiciens, où il y a un concours où, arrivé à un certain âge, on regarde. Donc, je crois que les palmes, on démarre avec les palmes académiques et on finit à l'Académie française.
Alors, ma question n'est peut-être plus tout à fait à propos, puisque je voulais vous poser la question, est-ce que le mot amitié est dans votre dictionnaire?
Peut-être qu'il est dans le dictionnaire, mais c'est pas une définition. En tout cas, le mot n'est pas traité et j'aurais du mal à mettre une notion inutile dans l'amitié qui est tellement indispensable à ma vie.
Pardon, l'amitié est omniprésente parce que ceux qui liront le dictionnaire et tout ça, les citations des gens, tout à l'heure on a parlé de Dubillard, on a parlé de Brassens, on a parlé, etc., ce sont à chaque fois des renvois à l'amitié. Valentin parle de Pesto, oh là 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 là. Bon, j'ai pas tout lu. Hein. Il en fait 4 ou 5 pages et ça mérite d'être lu vraiment. Là, on est dans l'amour, l'amitié, la poésie, etc.
La question est de savoir, est-ce que vous vous bridez pour ne pas être méchant ?
C'était pas très méchant. Sur le même, je me demande si j'avais pas eu un courrier où il y a le monsieur, le fils qui voulait absolument me parler, mais j'ai pas réussi à l'avoir finalement. Non, mais c'est pas méchant. Mais je crois que notre nature à l'un et l'autre est pas trop la méchanceté.
Moi, j'avais une fierté. J'ai envoyé le bouquin à Jean-Pierre Bacry, de qui j'étais assez proche. Et une des fiertés, c'est qu'il m'a envoyé un message en me disant « Les coups de griffe comme les compliments ne sont pas trop appuyés. » Et c'était le meilleur compliment qu'il puisse me faire. Donc, on essaie de ne pas être trop méchant, mais je crois que oui, ce n'est pas le fond de notre nature.
Non, puisque je crois même, en fait, que vous avez dit que l'éditeur, au départ, vous avez proposé de faire un dictionnaire amoureux de la gentillesse. Puis que vous avez dit « Ça ne va pas se vendre du tout. » Non, mais parce qu'il fait l'éloge de tout ce qui est gratuit, mais ils sont quand même intéressés, en fait, à la vente des ouvrages. Hein. Bon, oui. Alors, je vais répéter cette question sérieuse. Est-ce que le goût pour le superflu, pour l'anodin, reflèterait effectivement la faillite des idéologies de notre époque ? Vous pouvez vous mettre à deux pour répondre.
La question est un peu trop savante pour moi, je crois, mais je vais essayer d'y répondre en disant que ce qui nous a conduit à écrire ce livre-là, justement, c'était le plaisir de l'échange avec l'autre. Et c'est vrai que quand tout s'effondre, il reste la relation humaine et que c'est ça qu'on avait un peu envie de mettre en valeur. Et ça fait aussi écho au moment où il y a eu des commerces qui étaient essentiels et d'autres qui ne l'étaient pas. Je pense que tout le monde a eu l'impression justement que ce qui n'était pas essentiel, ça remplissait nos vies. Et c'était ça qu'on avait envie de mettre en avant, c'est ça qui nous consolait, c'est ça qui nous faisait vivre. Et donc peut-être que ça parle de... Si j'avais des convictions plus sûres, j'aurais peut-être écrit un livre plus sérieux. Et là, c'est effectivement un pas de côté sur ce qui nous réunit, sur ce qui nous anime et ce qui nous fait vivre.
Alors, vous voyez qu'on a un auditoire, en fait, vraiment, donc, voilà, qui pose des questions de fond. La question est la suivante, c'est est-ce que ce livre a changé quelque chose dans votre relation père-fils ? Est-ce que ce livre a été utile dans la relation père-fils ?
Tu réponds ? Oui, forcément. Moi, c'était un petit enjeu pour moi, puis d'essayer de montrer à mon père que je n'étais pas forcément que un glandeur et que je pouvais faire des trucs un peu amusantes. Et donc oui, moi j'avais un peu l'envie d'essayer de l'impressionner. Bon, je dis impressionner, mais et de me prouver à moi-même aussi que je pouvais le faire, puisque c'était un peu... Et oui, je pense que ça nous a un petit peu rapprochés, mais on va pas rentrer dans l'intimité. Mais oui, forcément, ça... Puis le fait d'aller à la télé ensemble, c'est quand même assez étrange comme truc. Donc non, oui, il y a plein de nouvelles expériences avec la sortie du bouquin et plein de moments super qui se sont passés, entre autres celui-là.
Alors ce ne sera pas une question, mais simplement un remerciement de ne pas avoir fait curé.
Merci. Je pense que c'est une allusion à une chronique assez récente. Oui, non, mais c'était une chronique à une époque où on avait le droit d'aller à la messe, mais pas au spectacle. Et comme moi, je vais plus souvent au spectacle, soit pour faire pour officier ou pour prier. Donc, je regrettais pas tellement que les églises soient ouvertes, mais que les théâtres soient fermés.
Bon, y a-t-il une dernière question ou bien est-ce qu'on va clore cette rencontre ? Ah !
C'est pas une question, c'est un petit remerciement parce que votre première phrase du début, quand vous avez parlé des ricochets, ben là j'ai trouvé que vous aviez tout dit.
Ben, merci beaucoup. On va remercier énormément François et Valentin Morel. vous savez, oui, attends. Vous savez qu'ils ont eu beau passer sur tous les plateaux télé, ils étaient très anxieux de l'accueil de votre... Voilà, donc merci effectivement à eux. Alors, vous n'allez pas dédicacer... Enfin, ils ne vont pas dédicacer leur ouvrage, en fait, aujourd'hui. Ils le feront demain lors de la Biennale et Marie-Laure va vous parler de la Biennale. Moi, j'ai juste deux ou trois petits messages, en fait, à faire passer. D'abord, avant de partir, si vous pouvez ramener les bancs là-bas, qu'on puisse les ranger dans le conteneur. Ça, c'est premier message. Deuxième message, nous allons rester dans le registre académique vendredi prochain, puisque nous avons une autre académicienne qui va succéder donc au futur académicien François Morel, qui est Pascal Cossard, secrétaire général de l'Académie des sciences. Donc on va parler d'un tout autre sujet, mais aussi passionnant et combien d'actualité. Donc sur le monde invisible du vivant, ça se passera à 11h, en fait, ici même. Et enfin, dernier message, je fais un peu de pub parce qu'elle le mérite bien et ça fait tout à fait écho à ce qui s'est dit aujourd'hui sur la magnifique exposition de photographie de Valérie Vinclair qui s'appelle « Non essentiel ». Donc une inspiration et une réalisation effectivement remarquable dans la cour du ciné Il est et qui est visible en fait par tous jusqu'à la fin du mois. Voilà, ben écoutez, merci beaucoup et maintenant place à Marie-Laure pour nous parler de la Biennale.
Alors demain, la Biennale qui se passe Place de la Pilée, qui s'ouvre à 10h, nous retrouverons Valentin et François qui signeront leur dictionnaire et d'autres livres. Ils seront entourés d'une trentaine d'auteurs, des scientifiques, des journalistes, des romanciers, des auteurs jeunesse, des auteurs vieillesse. En tout cas, ça sera extrêmement convivial et joyeux, donc venez nombreux et... revoir Valentin et François et obtenir leur dédicace. Donc à demain à tous. Et surtout, ceux qui veulent s'inscrire, qui ne sont pas inscrits à l'association, n'hésitez pas à vous inscrire. Ça nous aide toujours énormément de recueillir vos dons. Voilà. Bonne journée à tous.
Ça pourra nous permettre d'acheter un second micro peut-être. Merci. À bientôt.